Sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas de loin. Mais elles ont du flair, comme les animaux, et sentent les hommes venir. Tous les matins, la vieille se traînait à la petite étable et criait « Jeannot, sors tes doigts, que je sente que tu seras bientôt assez gras. » Mais Jeannot lui tendait un petit os, et la vieille croyait que c'était les doigts de Jeannot, et s'étonnait qu'il ne voulait pas engraisser.
Chapitre 1. Le vent hurle autour de la petite ferme.
Gabriel a bien fermé les volets.
Mais il tremble sous ses assauts.
Furieux, il cherche à s'infiltrer par chaque fissure, chaque interstice. Comme il ne parvient pas à entrer, il charrie les hurlements lointains des loups et le grondement sourd du tonnerre. Ce n'est pas encore le grand froid de l'hiver, mais un orage se prépare. Gabriel vient tout juste de se coucher quand un coup de tonnerre, la porte de la petite chambre s'ouvre brusquement. Gabriel sursaute de frayeur, mais ce n'est qu'Artus.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Les parents avaient pourtant décidé qu'Artus devait désormais dormir dans le grenier. Père lui avait même construit un petit lit, et Gabriel trouvait cela très bien. Artus ferme doucement la porte derrière lui.
Ils hurlent beaucoup ce soir. Tu as peur ?
Non.
Moi, oui.
Bon, c'est vrai, moi aussi.
Artus reste près de la porte, indécis.
C'est comme l'autre fois, on n'entend pas que des loups.
Gabriel ne dit rien.
Parfois, on dirait des enfants.
Arrête!
On ne les a toujours pas retrouvés, Thibault l'année dernière, et maintenant Héloïse.
Gabriel fait le signe de la croix. Artus, paniqué, saute dans le lit et se réfugie contre elle. Gabriel tire la couverture sur eux.
Et en plus, j'ai faim.
Gabriel sort un bout de pain dessous de son oreiller.
Mais tu m'en laisses un bout ?
Artus croque dans le pain sans rien répondre. Gabriel écoute les bribes de conversation venant de la chambre d'à côté.
Il nous reste presque plus de pain. On ne pourra jamais payer le sens. Les hommes du vieux baron vont passer dans quelques jours.
On va essayer d'aller plus loin dans la forêt. Artus pourra m'aider maintenant avec le bois. Il est assez grand. Tu pourras emmener Gabriel pour chercher des fruits et des champignons. Peut-être qu'avec ça, on pourra prouver notre bonne volonté au baron et gagner un petit délai.
Tu sais ce qu'on raconte au sujet de la forêt.
Ce sont des ragots païens.
La respiration d'Artus est devenue régulière. Le vent a cédé à la pluie.
Tu crois qu'elle aime bien venir avec moi ? J'aimerais tellement qu'ils m'acceptent comme leur nouvelle mère.
Tu peux être tranquille, ils t'aiment bien. La mort de leur mère a été terrible pour nous tous. Mais je crois qu'avec le temps, ils vont finir par l'accepter. Je leur ai dit, Dieu nous l'a enlevé, mais il nous a aussi aidés à continuer sans elle. Et puis, il nous a envoyé toi. Ils voient tout ce que tu fais pour eux.
Après, Gabriel ne les entend plus, à cause de la pluie, ou parce qu'ils se taisent, ou parce qu'elle s'endort elle aussi. Elle ne sait plus.
Chapitre 2. 45 ans plus tôt.
Sur le seuil de la porte, Jeanne et Volpert s'embrassent une dernière fois.
J'aurais envie de rester, mais il faut que je parte. Je reviens ?
Jeanne cherche son regard. Volpert, les yeux tournés vers le soleil du matin, la serre dans ses bras et rit fort.
Mais bien sûr, quand tu veux.
Elle s'éloigne, puis se retourne encore une fois pour lui faire un signe de revoir. Volpert lui sourit et lui renvoie le geste.
Qu'est-ce qu'il est beau.
La maison de Volpert à côté de la forge est une des dernières du village. Jeanne a hâte d'atteindre la forêt, mais il lui reste encore quelques maisons à dépasser. Dans l'une d'elles, elle aperçoit un rideau qui bouge. Dans le village, tout se sait. Enfin, la forêt se dresse devant elle. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose d'important, Jeanne ressent le besoin d'aller dans la forêt. Elle n'a jamais compris la méfiance et même la peur que certains éprouvent face à la forêt. Elle a l'impression que la forêt comprend tout. Au bout d'un moment, elle arrive au lac. Elle se déshabille et plonge dans l'eau. Les arbres autour du lac frémissent dans la brise matinale, laissant passer des rayons de soleil qui font scintiller la surface de l'eau. C'est la fin de l'été, mais l'eau est toujours très fraîche, presque glacée. Le cœur de Jeanne bat très vite, sa respiration s'accélère. Elle plonge sous l'eau, remonte à la surface, nage vite, se laisse flotter sur le dos. Des images de la nuit passée traversent son esprit. À chaque image, les battements de son cœur s'accélèrent. À chaque pensée, une chaleur nouvelle s'éveille en elle, s'intensifie, puis va trouver la fraîcheur de l'eau sur sa peau. Cette sensation la remplit de joie. Elle entend Volpert dire
« C'était donc ta première fois ?»
Oui. J'ai tellement envie de partir avec toi, loin d'ici. On pourrait aller voir d'autres pays ensemble.
Jeanne lui caresse l'épaule. Volpert n'avait pas vraiment répondu, mais il l'avait serrée dans ses bras. Le cœur de Jeanne bat plus vite. Sort du lac, se rhabille et continue son chemin. La marche et le soleil qui passent à travers les cimes des arbres réchauffent son corps. Elle n'a pas encore mangé, mais elle se sent capable de marcher comme ça pendant des jours. À pied, elle pourra aller jusqu'à ces pays étranges dont elle a entendu parler et dont elle rêve souvent. Des pays peuplés de gens étonnants, fascinants, de créatures curieuses, où les marchés regorgent d'épices et de parures qui dépassent toute imagination. Finalement, elle sort de la forêt. Devant elle, des collines vertes et des champs s'étendent baignés de soleil. Elle se dirige à travers les champs vers une petite maison isolée. Une chèvre accourt vers elle.
« Salut, toi !»
Elle la caresse. La chèvre la suit de près, pleine d'affection. Devant la maison, un potager bien entretenu s'étale. Jeanne le traverse quand une vieille femme ouvre la porte, un sourire aux lèvres.
« Bonjour, Marthe. »«
Bonjour, ma petite Jeanne. »
Elle se serre dans les bras.
Jeanne est assise à la table de la cuisine. Marthe prépare une décoction. Sans se retourner, elle dit
« Tu sais, Volpert n'est pas un homme pour toi. Il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Il veut juste s'amuser. » Il ne s'intéresse qu'à son métier de forgeron. Il ne partira jamais avec toi. Ce ne serait pas bon d'avoir un enfant avec lui. En tout cas, moi, je te le déconseille vivement.
Jeanne ne dit rien, regarde dans le vide. Une larme commence à couler sur sa joue.
Maintenant, si tu veux être sûre de ne pas avoir un enfant de lui, bois ce breuvage. Mais c'est ton choix.
Marthe pose un bol devant Jeanne. Pendant un long moment, Jeanne ne bouge pas. Elle regarde le bol. Le breuvage fumant sent un peu le thym et autre chose qu'elle n'arrive pas encore à identifier. Elle porte le bol à ses lèvres. Quand elle a fini de boire, Marthe le reprend et dit
« D'ailleurs, tu dois faire attention. Volpert fréquente souvent des gens qui voudraient me dénoncer comme sorcière. »
Comme souvent, Jeanne est intriguée. Marthe dit vrai sans doute, mais comment sait-elle tout cela? Elle qui vit seule, recluse ici, loin du village.
Ne viens plus ici. Les gens qui ne m'aiment pas ne t'aiment pas non plus. Tu te mets en danger.
Cette fois, Jeanne pleure pour de bon. Ne plus revenir voir Marthe en plus. Marthe lui caresse l'épaule.
Un jour, je ne serai plus là. Ne sois pas triste. Reste confiante. Tu pourras toujours partir où tu voudras. Pense à mes conseils. D'ailleurs, je n'ai plus grand-chose à t'apprendre.
Marthe, tu n'as jamais voulu me dire qui t'a appris tout ça.
Marthe ne répond pas tout de suite. Elle range d'abord les pots remplis d'herbes et de racines dans une grande étagère. Finalement, elle s'assoit à côté de Jeanne.
Quand j'étais jeune comme toi, une vieille femme comme moi m'a appris tout ça. Elle vivait loin dans la forêt, encore plus loin que le ravin. Tu sais, le ravin, l'année dernière, quand on est allé chercher les racines pour la 11e potion.
Elle met son bras autour des épaules de Jeanne.
Maintenant, ne sois plus triste. Va-t'en, et ne reviens plus pendant quelque temps.
Jeanne essuie ses larmes. Elle s'étreigne un instant, puis Jeanne embrasse Marthe et s'en va. Marthe travaille dans son jardin. Elle enlève les mauvaises herbes et les récupère dans un sac. Elle sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps, mais elle tient à finir de nettoyer le potager. En général, ce qui annonce d'abord la présence humaine, c'est le bruit. Quand Marthe entend au loin les voix aboyantes et les rires gras, elle ne lève même pas la tête. Elle continue à travailler. Puis, elle se redresse pour s'étirer. Au loin, sur le chemin qui mène vers sa maison, 5 hommes approchent. Leurs armes brillent au soleil. Avec l'esquisse d'un sourire, elle se penche à nouveau sur les mauvaises herbes. Elle aura le temps de finir avant qu'ils arrivent. Chapitre 3. 45 ans plus tard. Un autre matin dans la forêt, le soleil filtre à travers les arbres. Les oiseaux chantent comme si quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Belle-mère montre à Gabriel des champignons, des baies et des plantes. Elles en cueillent certains et Gabriel les met dans sa sacoche. C'est l'automne. La sève est redescendue. La saison d'abattage a commencé. Quand il était plus petit, Artus croyait que son père, à lui seul, pouvait repousser toute cette immense forêt qui, chaque jour, tentait de les engloutir. Depuis que son père l'emmène travailler dans les bois, Artus a compris qu'il ne coupe que certains arbres. Avant l'abattage, le père vérifie si le bois est sain, dense, bien fendant et de droit fil. Il cherche aussi à protéger les jeunes pousses et à entretenir les sous-bois. Artus a 11 ans maintenant. Il sait déjà manier la serpe pour ébrancher sans se couper. Souvent, il jette un coup d'œil pour regarder son père manier la lourde hache. Depuis 2 heures, il abat des branches épaisses qui volent parfois en éclats. La sueur coule sur son visage. Son regard est concentré. De temps en temps, il siffle doucement un air que Artus connaît bien.
Artus, viens voir. Apporte l'autre cognée.
Le cœur battant, Artus se dépêche. Son père va lui laisser essayer la hache. Le père saisit les mains d'Artus et lui montre comment tenir la hache, comment laisser le poids faire le travail. Quand Artus essaye de couper une grosse branche, il est un peu crispé et n'y arrive pas du premier coup. Le père sourit, lui montre encore une fois, puis lui tape sur l'épaule pour l'encourager. Artus réessaye et cette fois, il réussit. Il est midi. Belle-mère a fait un feu. On mange de la soupe, des champignons grillés, des noix et le dernier pain. Comme il n'y en a plus beaucoup, le père et la mère donnent leur pain aux enfants. Il reste encore 2 pommes. Artus, qui se sent un peu hilar depuis son coup de hache, taquine Gabriel. Il énumère les garçons du village qui lui tournent autour. Gabriel fait semblant de le frapper. Il l'esquive, elle le poursuit. Elle remarque que depuis un moment, les parents ne parlent plus beaucoup. Elle jette un regard furtif vers eux. Le père, en piquant distraitement les braises du feu avec un bout de bois, est en train de regarder belle-mère. Belle-mère regarde le père dans les yeux, en croquant sa pomme. Sa chemise est déboutonnée en haut. Gabriel se souvient pourtant que tout à l'heure, elle était fermée. Tout d'un coup, le père s'adresse aux enfants sans vraiment quitter belle-mère du regard.
« Les enfants, écoutez, si vous alliez chercher des champignons, allez, vous suivez ce sentier jusqu'au bout. Vous verrez, c'est là-bas. »
Belle-mère ajoute.
« N'allez pas trop loin quand même. Ne restez pas longtemps. Placez des petits cailloux sur le chemin pour ne pas vous perdre. »
Artus commence à protester.
« Mais si on restait ici, on pourrait... »
Gabriel lui prend la main et l'entraîne.
« Allez, viens !»
Il s'éloigne en ramassant quelques cailloux. Les parents se regardent de nouveau. Le père cherche quelque chose à dire. Il veut ignorer la chaleur qui monte en lui. Puis il voit dans les yeux de belle-mère que c'est inutile. Subitement, passionnément, il s'enlace comme 2 personnes en train de se noyer. Il faut faire vite. Les enfants avancent sur le petit sentier. De temps en temps, Artus dépose un caillou. Finalement, il dit
« J'ai toujours faim. J'espère qu'on va bientôt retrouver ces champignons. »
Le sentier est couvert d'herbes et d'aiguilles de sapins. On n'entend plus leurs pas. Les arbres géants sont là depuis des siècles. Le ciel ne perce plus à travers leurs cimes. Ici, la forêt est dense, sombre. Derrière ce mur de végétation impénétrable, on devine une immensité presque effrayante. Un monde où un humain n'est pas vraiment le bienvenu. On entend moins d'oiseaux. Les enfants ne parlent plus. Leurs pas ralentissent. Un peu plus loin, une petite clairière encore ensoleillée leur donne espoir. Ils s'y précipitent. Mais à l'entrée, ils s'arrêtent net, incrédules. Artus avance d'un pas, prudemment.
C'est de ça que père parlait ?
Sur la clairière, ils aperçoivent quelques champignons géants d'une forme bizarre. Les parents allongés sur le dos sont en train de retrouver leurs esprits. Une légère brise fait bouger les arbres. Le soleil qui filtre à travers leurs branches a déjà dépassé le zénith. Belle-mère chuchote à l'oreille du père.
« Il faut se rhabiller vite. Les enfants vont revenir d'un moment à l'autre.